les jardinières.
Plantes vertes ou véritables prédatrices, qui sont les plantes carnivores? Faut-il en avoir peur ou sont-elles des alliées contre l'invasion des moustiques à la maison? On va tenter de répondre à ces questions ce matin chez les jardinières. Vous l'aurez compris, on parle de plantes carnivores jusqu'à 8h. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Et pour découvrir ces plantes, nous sommes en compagnie d'Olivier Martaleur, chaudefonnier, mais surtout passionné de plantes carnivores depuis plus de 50 ans. Bonjour Olivier.
Bonjour Mylène et Noélie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Durant une heure, les plantes carnivores seront à l'honneur. Soyez les bienvenus chez les jardinières.
Les jardinières.
On vous emmène donc à la découverte des plantes carnivores. Olivier Martaleur, depuis 50 ans, les plantes carnivores, c'est votre passion. Mais dites-nous, comment est-ce que vous êtes tombé dans la gueule de ces plantes?
Oula, il y a environ 50 ans, à l'école secondaire, un copain avait un catalogue de vente par correspondance hollandais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une plante carnivore dans ce catalogue. Je l'ai acheté, je l'ai fait crever dans les 3 mois quand j'habitais chez mes parents, que je n'avais aucune connaissance sur leur culture. Depuis, ça a été un défi de mieux m'en sortir. Et petit à petit, j'ai acquis des connaissances et des plantes. Et voilà comment ça a commencé.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, on parle de plantes carnivores en compagnie d'Olivier Martaleur, grand passionné. Et Olivier, vous nous avez accueillis chez vous à la Chaux-de-Fonds.
Oui. Et votre appartement n'a rien à envier à certains jardins botaniques. Visite guidée des lieux.
Et puis, il y a ici plutôt des terrariums. Pas de plantes à l'air libre. C'est des népenthèses pour la plupart, donc des plantes qui viennent du sud-est asiatique à l'origine. J'essaie de reconstituer les conditions de là-bas, j'y suis allé il y a quelques années. Bien sûr, on ne peut pas ramener de plantes de là-bas, mais celles-ci, je les ai acquises correctement. J'ai un humidificateur, un petit frigo pour refroidir la nuit parce qu'il faut une amplitude jour-nuit, des lumières artificielles en respectant à peu près le spectre solaire, 12h-12h comme là-bas, presque sur l'équateur. Et puis, donc, on peut ouvrir les terrariums, vitres. Et puis, vous voyez, je suis en train de bouturer une plante ici. Là, c'en est une qui est extrêmement rare encore maintenant en multiplication à grande échelle. Donc, c'est le même principe. Il y a le piège, le tube, du liquide digestif. Attention, je vais le faire couler. Vous voyez, c'est un peu visqueux. C'est la plante qui sécrète des enzymes. Parfois, il y a de l'humidité. Ça peut être de la pluie dans la nature qui dilue les enzymes. Et les insectes, attirés par le sucre ou par la couleur vive de l'urne ou pour aller boire, tombent dans le piège et n'arrivent pas à en ressortir. Soit ils sont ivres, soit il y a des poils qui se dirigent vers le bas, donc ils ne peuvent pas monter à rebrousse-poil, ou alors les parois sont hyper glissantes et hyper pieds. Ah là, il y a mon doigt qui est coincé dedans, d'ailleurs.
Dans une plante carnivore.
Et oui. Arg, ben, j'ai dû l'abîmer un petit peu.
Là, les plantes, elles sont dans ce terrarium. Du coup, c'est fermé, c'est vous qui contrôlez l'air. Comment elles se nourrissent? Vous lâchez des insectes?
Oui, c'est la question. Il y a très longtemps, j'avais hésité à lâcher des insectes. Et on m'avait dit, au jardin botanique de l'université de Besançon, là, j'avais des amis là-bas. Et ils me disaient, non, en tout cas pas, ne mets pas de criquets ou de grillons, parce qu'il y en a un qui s'échappe, et puis ce sera l'enfer sonore chez toi. Donc, ils m'avaient déconseillé de le faire. Donc, je ne mets pas d'insectes ici. Parfois, pour le chaud, je mets juste une mouche et tout. Mais autrement, je mets de l'engrais liquide. Alors, c'est des plantes qui sont quasiment devenues végétariennes, si on peut dire. Mais il leur faut un léger engrais. L'engrais pour les rosiers et autres, ça les ferait claquer. C'est beaucoup trop fort.
Vous avez plusieurs centaines, voire milliers de plantes dans votre domicile. Ça vous prend combien de temps par jour de vous en occuper?
Tant que je bossais, ça me prenait trop peu de temps parce que moi, je luttais pour trouver des petites plages temporelles pour m'en occuper. Maintenant, je pense qu'en moyenne, ça m'occupe bien 2 heures par jour.
Quand vous avez dit que vous allez partir en vacances cet été, est-ce que vous dirigez vos vacances en fonction de votre passion?
Excellente question. Oui, jadis, je suis allé souvent 5 ou 6 fois à Philippines, Bornéo, Sumatra, quand la condition physique le permettait. Maintenant, j'aime bien me balader dans les tourbières. En Andalousie, on a Drosophyllum lusitanicum. C'est une sorte de grande rosera avec des gouttes de rosée, de col qui poussent dans des régions semi-arides. Alors là, j'aime bien aller les voir uniquement, mais ce n'est pas le but de mes vacances.
Merci beaucoup pour la visite, Olivier. Parmi vos plantes, on se demandait quel âge a la plus âgée ?
La plus âgée, une vingtaine d'années probablement.
Et son petit nom ?
Alors c'est un épenthès aussi, donc c'est une plante tropicale d'altitude.
Est-ce que vous vous en prenez plus particulièrement soin parce que c'est la doyenne ?
Non, pas vraiment. Non, elle s'est bien établie, elle est bien chez elle, elle se porte très bien. Mais c'est plutôt les plus jeunes, celles que j'ai notamment bouturées ou que j'ai échangées. Après le stress du voyage, il faut les acclimater. C'est plutôt celles-là qu'il faut suivre.
7h, 8h, les jardinières.
Émission spéciale plantes carnivores en compagnie d'Olivier Martalère. On découvre ces plantes qui se nourrissent de petites bêtes bien vivantes. Alors Olivier, pourquoi certaines plantes ont-elles besoin de manger des insectes ?
Alors certaines plantes vivent dans des milieux très, très peu nourrissants, notamment la tourbe. Et ces sols manquent d'azote. Et la plante carnivore, notamment, enfin la plupart des plantes carnivores, ont besoin d'un complément d'azote qu'elles trouvent dans les plantes, dans les insectes, par exemple. Excusez-moi, les insectes, voire les petits batraciens, les petits reptiles, parfois des rats dans les plus grands pièges qu'on trouve en Malaisie, en Indonésie, dans les montagnes. Donc c'est par manque d'azote dans le sol que les plantes sont devenues carnivores, probablement.
Olivier, quelles sont les différentes techniques de piège utilisées par les plantes carnivores ?
Il y en a plusieurs. Alors, il y a d'abord l'urne, le tuyau avec des poils à rebrousse-poils que l'insecte ne peut pas remonter une fois qu'il est descendu dans le tuyau. Il a été attiré par des gouttes sucrées sécrétées par la plante. Ça, c'est le tube. Ensuite, on a bien sûr le piège, la fameuse Dionée, Vénus attrape-mouche, Dionea muscipula. Donc, c'est deux demi-feuilles qui se replient très brusquement sur l'insecte imprudent qui est venu se balader là. On a le troisième grand, la grande famille, c'est les Drosera, Drosophyllum. C'est des gouttes qui ressemblent à de la rosée, Rosolis en français et en latin. Ces gouttes semblent être de la rosée et les insectes viennent butiner, chercher l'humidité et se font piéger par ces gouttes qui sont de la glu en fait. Et petit à petit, en quelques heures, l'insecte qui est resté coincé, la feuille de la plante se referme progressivement sur elle-même. Il y en a encore une quatrième, mais c'est des petites plantes lacustres ou souterraines. C'est des sortes de petites poches vides. Et puis, quand elles sentent qu'une bestiole, mais alors d'une taille invisible à l'œil nu quasiment, l'urne s'ouvre, la poche s'ouvre et aspire la petite bête. Je ne peux même pas dire un insecte, c'est plus petit. Voilà les grandes familles.
Et du coup, elles mangent quoi exactement ? Pas forcément que des petites mouches, il y a peut-être d'autres animaux ?
Alors oui, comme je l'ai dit, il y a les plus spectaculaires. On a vu au jardin botanique à Lyon, notamment, un rat qui traînait par là, ou une souris plutôt, a été capturée. On l'a remarqué par la puanteur que ça dégageait. Après quelques semaines, la bestiole s'était fait digéré, mais voilà, il y avait des restes olfactifs. C'est surtout des mouches, ça peut être des guêpes. Je n'ai pas vu de frelons asiatiques, il y a des pubs un petit peu audacieuses qui proposent des plantes carnivores pour se débarrasser des insectes, mais non, c'est surtout des moucherons, des mouches qui sont les principales victimes.
On va parler un peu digestion. Alors là, vous avez parlé du rat qui a mis plusieurs semaines, du coup ça sentait fort. Mais en général, une plante carnivore, elle met combien de temps pour digérer sa proie ?
Oui, alors celles qu'on a le plus étudiées, c'est les dionées, donc les Vénus attrape-mouche, c'est le piège qui se referme. Il faut compter environ une dizaine de jours. La plante se referme sur sa victime. Et la digère très progressivement. Et après une dizaine de jours, la feuille, la double feuille, va se réouvrir. L'insecte qui aura été sucé et tout sec va tomber. Et le piège peut encore fonctionner deux fois. Donc c'est 10 jours pour l'ensemble du processus capture, digestion, et ensuite on peut mettre le couvert, une deuxième et une troisième fois, ensuite la feuille sèche, et il faut recommencer. Pour l'hydrozéra, je ne sais pas si on a étudié le temps de digestion, mais ça doit être à peu près de cet ordre-là.
Et est-ce qu'une plante carnivore, elle peut survivre sans attraper d'insectes ?
Oui, comme vous l'avez entendu dans le petit reportage, là, je nourris pas régulièrement avec des insectes mes plantes. J'en ai beaucoup trop. Ce serait trop long, fastidieux. Et puis, je craindrais une infestation quand même d'une multitude de bestioles. Donc, j'essaie de compenser par des engrais liquides ou du guano. Très, très dilué. Il y a des modes. Et puis, on arrive maintenant à trouver des engrais qui sont très légers et adéquats, qui vont autrement, s'ils sont trop forts, ils vont brûler la plante.
Et puis, on se demandait, Olivier, est-ce qu'une plante carnivore peut être dangereuse pour les humains ? Dans le reportage, vous aviez le doigt coincé dedans. Comment va-t-il ?
Non, il va bien ce matin, je le vois là, il est en bonne forme. Non, si mon doigt s'est fait piéger, c'est que l'ouverture de l'urne, donc du piège, était pile au diamètre de mon auriculaire. Alors quand je l'ai enfilé dans l'urne, ensuite pour le sortir, justement, il y a des poils, il y a des sortes de griffes qui empêchent le doigt de ressortir facilement. Voilà. On risque rien, non.
Les jardinières.
Les plantes carnivores intriguent et sont source de curiosité. Olivier Martaler, vous êtes passionné de ces végétaux et vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour partager votre passion sur les plantes carnivores.
Olivier, vous qui possédez plusieurs milliers de plantes carnivores et qui êtes passionné par cet univers, est-ce que tout le monde peut facilement en avoir une à la maison ?
Oui. À la maison, proprement dit, c'est difficile, mais sur une tablette de fenêtre à l'extérieur, c'est très facile. Il faut beaucoup de soleil, de l'eau, déminéralisée, de l'eau de pluie. Et en hiver, il faut beaucoup de fraîcheur, mais pas de gel, en principe pour les plantes les plus courantes qu'on voit dans les jardineries et autres. Si on veut des plantes plus exotiques, les népenthèses, donc c'est parmi mes favorites, il faut construire un terrarium, installer lumière, ventilation, humidité. Mais une fois qu'on a tout ça, ça va tout seul, mais il faut vraiment bien planifier, bien installer tout. Mais pour les plantes qui sont justement à l'extérieur, ça va très bien. Avoir une plante carnivore à l'intérieur, c'est beaucoup trop sec. La lumière ne sera pas suffisante pour les plantes les plus communes. Donc c'est un petit peu le piège quand on achète une plante, on croit, sans jeu de mots. Quand on achète une plante pour l'appartement, elle ne va pas durer longtemps.
Oh. Justement, si on aimerait quand même en acheter une, est-ce que vous avez des endroits à nous conseiller ?
Il y a des jardineries qui sont intéressantes, il y a des grandes surfaces, et puis il y a des amateurs, quelques amateurs en Suisse, j'en fais partie d'ailleurs, parfois je vends une ou deux plantes, mais donc il faut entrer sur des réseaux, il y a un groupe Facebook, Plantes Carnivores Suisse Romande, sauf erreur. On peut mettre des petits mots et demander à des particuliers sur le forum qui possède quoi et qu'est-ce qui est disponible. On fait des échanges aussi, mais je pense que pour des plantes courantes, on en trouve facilement en jardinerie maintenant. Pour quelqu'un qui veut un peu se perfectionner, il y a beaucoup d'amateurs, il y a un réseau assez important maintenant en Suisse romande, et puis des gens qui en font le commerce, mais c'est des peanuts, hein, bien sûr.
Olivier, vous nous en avez déjà touché quelques mots tout à l'heure, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. De quoi elle a besoin, une plante carnivore, pour bien vivre dans un appartement ?
Alors, comme vous venez de le dire, dans un appartement, dans un terrarium, humidité, lumière, etc., À l'extérieur, il faut de la. Une, ça dépend des plantes. Hein. Certaines aiment la mi-ombre, certaines aiment le plein soleil. Et il leur faut à peu près pour toutes, durant la belle saison, de l'eau déminéralisée. Un support de culture qui était quasi de la tourbe pure il y a quelques années, mais maintenant, bien sûr, qu'on protège les tourbières un peu partout dans le monde, et on trouve de moins en moins de tourbes, ce qui est une bonne chose, mais on n'arrive pas encore facilement à s'en libérer. Donc, on trouve des substrats, on a créé des substrats qui vont pas mal, mais qui sont pas forcément idéaux. La sphaigne, donc la mousse qui se transforme en tourbe sur des milliers d'années, la sphaigne est une bonne alternative, mais il faut aussi la laisser pousser. Donc, ça prend du temps. Il n'y a pas de support idéal, éthiquement parlant.
Donc, il faut beaucoup de patience. Olivier, est-ce qu'une plante carnivore peut vraiment jouer les chasseuses de moustiques dans une maison? Ou c'est surtout une belle idée qui fait rêver?
Ça fait rêver et ça fait vendre. Non. C'est quasiment pas possible. La plante aura soit une indigestion, ça arrive, soit beaucoup d'insectes vont passer à travers les mailles du filet. Il arrive qu'une plante ait attrapé beaucoup de mouches sur une tablette de fenêtre, mais l'urne va sécher, va se décomposer, et c'est une autre urne, bien sûr, qui va se développer. Mais c'est très rare, et puis on ne peut pas se débarrasser des insectes. Non.
Et pour une première plante carnivore, quelle plante serait l'idéal selon vous?
Je pense à la Dionée, la Dionée muscipula, la Vénus attrape mouche, celle qui se referme avec le piège le plus spectaculaire, surtout pour les gosses, parce que elle supporte bien le soleil fort, la chaleur, il lui faut toujours de l'eau, et en hiver elle supporte un léger gel. Donc, c'est la plus facile à cultiver. On voit très vite si elle a des problèmes et on peut y remédier. S'il y a des insectes, des bestioles nuisibles qui viennent dessus, on peut plus facilement s'en débarrasser que sur des Drosera, donc des petites gouttes de colle, par exemple. Donc, la Dionée et Vénus attrape-mouche qu'on trouve partout, partout, je veux dire, dans le commerce. C'est vraiment par là que je commencerai personnellement.
Les jardinières.
On parle de plantes carnivores ce matin chez les jardinières avec Olivier Martalère, passionné de ces plantes intrigantes. Il y a quelques minutes, on a parlé de plantes à la maison et parlons maintenant des plantes à l'état sauvage. Alors, est-ce que vous savez environ combien de variétés de plantes carnivores on peut trouver à l'état sauvage?
À l'état sauvage, des espèces, on en trouve entre 700 et 800 apparemment, mais on en découvre encore chaque année, pas des quantités, hein, mais dans des régions assez lointaines et peu accessibles, on en découvre encore. L'année dernière, on a découvert un ou deux Nepenthes, un ou deux Drosera aussi.
Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel milieu on trouve des plantes carnivores?
Alors, pour commencer par ici, dans les tourbières. Dans les tourbières acides, on trouve les Drosera, les petites gouttes de colle, elles sont bien sûr strictement protégées, mais on en trouve donc pas loin de chez nous, dans l'arc jurassien, il y en a plein. Ensuite, si on s'éloigne un peu, on en trouve en France, en Espagne. En Espagne, on trouve dans les zones océaniques, en Andalousie, dans des régions très sèches, mais avec une brume matinale qui vient de l'océan. Ça leur permet, c'est un apport d'humidité, donc elles se développent là. Elles sont très belles, c'est comme des immenses Drosera de 40-50 cm de long, avec ces gouttes de colle qui ressemblent à de la rosée. Ensuite, il y en a dans les plateaux montagneux au Venezuela, les tepuis. On en trouve aux États-Unis, sur la côte ouest, au Canada. On en trouve dans le sud-est des États-Unis, et puis dans le sud-est asiatique, là où je suis allé plusieurs fois, donc Sumatra, Bornéo, Nouvelle-Guinée, Sulawesi, les Philippines aussi, il y en a pas mal.
Et du coup, où est-ce qu'on trouve les plus grandes variétés au monde?
Alors, ça dépend si on parle de pièges ou si on parle de la plante en tant que telle, parce que les nepenthes, c'est des lianes, en fait, qui développent des urnes le long de leur tige. Et ces lianes, certaines peuvent grimper jusqu'à 15 mètres de longueur, 15-20 mètres de longueur. Elles vont chercher la lumière dans une forêt pas trop dense, mais dans une forêt humide de l'Asie du Sud-Est. Pour les pièges, maintenant, je pense que les plus grands, c'est 1,20 m dans les Sarracenia, donc ces longs tuyaux, ces longs tubes qui poussent notamment dans le sud-est des États-Unis, même 1,50 m chez certains cultivateurs qui poussent un peu sur l'engrais, le spectacle.
Olivier, est-ce qu'on trouve des plantes carnivores chez nous, en Suisse ?
Alors oui, comme on l'a dit, là, dans les tourbières, au bois des lattes, au Seignoli, on en trouve bien sûr aussi dans les franches montagnes, l'étang de la Gruère, mais on n'ose pas trop sortir des sentiers. Mais il y en a à plein d'endroits. Dès que c'est un peu humide, acide, on en trouve bien sûr dans le Jura français aussi, pas loin. On en trouve encore dans les Préalpes, fribourgeoises, vaudoises. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en voir.
Est-ce que certaines de ces plantes carnivores, elles sont menacées aujourd'hui ?
Oh, un peu toutes, oui. Malheureusement, pour plein de raisons. Alors, je pense qu'elle est mieux protégée. Et puis, elle ne se cultive pas tellement chez soi. Quand on les arrache dans la nature, la réadaptation est très difficile. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, là, je pense à l'Asie du Sud-Est. On déboise énormément pour la culture de l'huile de palme, qu'on plante des palmiers à la place. L'horreur. Et on voit aussi en montagne les petits agriculteurs qui vivent chichement, qui doivent défricher sur les flancs des montagnes et qui brûlent la végétation locale, notamment aussi des orchidées, pour créer des rizières. Et ça, c'est malheureux. L'huile de palme, les rizières sont les dangers principaux, mais il y a aussi des braconniers qui maintenant font le commerce assez puant d'arracher des plantes dans la nature. Ils voient que les Occidentaux, les Chinois, les Japonais s'intéressent beaucoup à ça. Et ils en vendent sur des réseaux, même sur Internet, de façon assez scandaleuse. On voit qu'elles ont été arrachées dans la nature. Donc c'est des dangers aussi, le danger directement humain.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les plantes carnivores étaient à l'honneur. Vous êtes avec nous, Olivier Martaler. Olivier, vous nous avez parlé il y a quelques minutes des plantes carnivores qu'on peut croiser en pleine nature. Alors, si on part en vacances, on peut peut-être aller en admirer. Mais ici, en Suisse, il y a un endroit où on peut en admirer, genre un jardin botanique qui vous plaît plus qu'un autre.
Alors, il y a beaucoup de jardins botaniques qui sont bien équipés maintenant, notamment à Lausanne, avec qui j'ai été en contact depuis des années. Il y a une nouvelle équipe maintenant en place, là, et je leur ai procuré une bonne quantité de plantes. Ils s'en occupent magnifiquement bien. Le jardin botanique de Berne, de Genève, en Nantes aussi. Port-en-Truy aussi, un petit jardin botanique qui s'est fait un point d'honneur à avoir des carnivores. Zurich, Bâle, bien sûr, pour aller un peu plus loin, mais celui que je connais le mieux, c'est Lausanne, et il s'en occupe vraiment très bien. Il y en a à Neuchâtel aussi.
Quelle est la plante, Olivier, carnivore qui est la plus impressionnante ou étonnante, selon vous ?
Alors pour moi, c'est le Darlingtonia californica. On l'appelle parfois le Lyscobra. C'est une plante qui est formée d'un tube, mais en dessous du tube, il y a une sorte de tête. Et comme une tête avec une ouverture sur le dessous de la tête, et l'insecte va être attiré par les sucres que la plante produit. L'insecte va entrer, descendre dans le tuyau et ne pourra pas retrouver la sortie parce que la plante a quasiment des lucarnes translucides qui font penser, enfin l'insecte voit la lumière solaire et l'insecte pense pouvoir s'en sortir par là. Il essaye en vain, il n'arrive pas et il retombe, il s'épuise et puis il finit par se faire digérer aussi. C'est pour moi la plus spectaculaire, la plus élaborée, le piège est le plus sophistiqué. Donc le Darlingtonia.
Vous l'avez chez vous ?
Oui, j'en ai des milliers et des milliers. J'ai acquis pas mal de graines, différentes origines entre l'Oregon et la Californie. Il y a un spécialiste qui découvre des variétés différentes. Et là, j'en cultive beaucoup. Il y en a beaucoup qui crèvent en cours de chemin. Il faut 4-5 ans pour qu'elles soient adultes. Mais ça, disons que c'est des plus spectaculaires, c'est celle que j'ai envie de partager avec d'autres. Je fais des échanges, un petit peu de vente, mais c'est surtout parce qu'elles sont toutes légèrement différentes les unes des autres et elles supportent le gel, donc à la chaux de fond, c'est pas mal.
Est-ce qu'il existe des idées reçues complètement fausses sur ces plantes ?
Oui, les plantes géantes, on voit dans les magazines, la fin du 19e siècle, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ces plantes à Madagascar, tentaculaires, qui font 2-3 mètres de haut. Et puis on voit souvent dans les dessins de l'époque, les fantasmes très masculins, c'est souvent une jolie jeune femme un peu dévêtue, qui se fait enlacer par une plante carnivore, par ses longues tentacules. Voilà, je vous passe les détails.
Donc, aucun risque pour les jeunes filles un peu dévêtues.
Même bien habillées.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Martaleur, d'être venu nous partager votre passion durant une heure. C'était un plaisir. On vous souhaite un très bon week-end et puis une bonne chasse aux plantes carnivores.
Oh, c'est elle qui chasse, c'est pas moi.
Rendez-vous samedi prochain dès 7h pour les jardinières. Nous serons en compagnie de Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Et si vous avez des questions au jardinage, vous avez toute la semaine pour nous les envoyer, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit en nous écrivant un SMS au 939. Bon week-end, Mylène.
Bon week-end, Noélie. Merci beaucoup encore, Olivier. Bon week-end.
Merci beaucoup.
7h, 8h, les jardinières.